Nous sommes parvenus à deux propositions sur la situation historique qui est la nôtre. Premièrement, la crise de croissance de la démocratie consécutive à la décantation de la structuration autonome est fondamentalement une crise de méconnaissance. Méconnaissance de la nature de la démocratie sécrétée par les rouages mêmes de la structuration autonome. Deuxièmement, cette crise de méconnaissance engage un enjeu philosophique encore plus fondamental, touchant l'essence même de la modernité comme processus de concrétisation de l'abstraction. Ce que deux propositions nous allons tâcher d'expliciter et de clarifier plus complètement. Il ne me paraît pas inutile de commencer par revenir sur la question de la méconnaissance. Afin de mettre cette problématique en perspective historique, et de spécifier aussi nettement que possible ce qu'il est justifié de mettre aujourd'hui sous cette notion, car la confusion en la matière est considérable. C'est à Marx que nous devons l'introduction en grand de la question de la méconnaissance dans l'analyse du fonctionnement de nos sociétés. Et c'est l'occasion de redire combien un bilan critique systématique de l'héritage de Marx et du marxisme nous serait indispensable. C'est à Marx que nous devons cette idée qui demeure féconde et essentielle, quelle que soit la distance que nous devions prendre par rapport à l'usage qu'il en fait, que leur monde social n'est pas spontanément transparent aux acteurs, qu'ils entretiennent des illusions à son sujet qui participent de son fonctionnement même. En cela, ces illusions n'ont rien à voir avec une simple erreur intellectuelle. Voir le fait que le monde social se présente aux acteurs sous le signe d'une mystification. C'est ce constat qui vient se loger sous le concept d'idéologie. Ramenée à son noyau, la thèse se résume à peu près comme suit. La domination de la classe bourgeoise qui caractérise la société capitaliste passe pour l'un de ces canaux, à côté de l'exercice de la contrainte matérielle exercée par l'appareil de coercition et de répression étatique, par une domination idéologique imposant aux acteurs, dominant comme dominé, une image mystifiée, trompeuse, mensongère, illusoire, de leur société. Cela donne, résumé en une formule, la thèse de l'idéologie dominante de la classe dominante. On voit immédiatement les problèmes que soulève pareille thèse. Le problème du contenu de cette idéologie dominante et des conditions de sa définition, le problème des voies de cette illusion qui affecte en priorité les dominants. La mystification n'est pas une mystification cynique des dominants à l'égard des dominés, des dominants qui sauraient, eux, à quoi s'en tenir alors que les dominés seraient maintenus dans l'illusion, c'est plutôt le contraire. Les dominés sont plutôt portés à mettre en question ce mensonge qu'il aurait imposé. Ils ont même vocation à faire éclater ce mensonge et à le renverser. Mais puisqu'imposition il y a néanmoins, le problème se pose de la manière dont cette imposition s'exerce. Jamais, en fait, cette thèse n'a trouvé chez Marx ou chez Engels son exposé systématique, et jamais non plus, d'ailleurs, à ma connaissance, chez leurs successeurs. Elle est invoquée de manière récurrente, sans véritablement accéder à sa pleine cohérence théorique. Il me semble possible de la rapporter à trois lignes de force. La première et la principale de ces lignes de force est d'ordre philosophique. Elle porte sur le renversement du matérialisme objectif du monde bourgeois en idéalisme subjectif. C'est la thèse du monde à l'envers, exemplifiée par l'image de la camera oscura, développée dans l'idéologie allemande. Alors que l'infrastructure économique et le mode de production capitaliste sont la base de la domination bourgeoise, celle-ci se présente comme le règne de l'idéal et du droit. C'est cet enjeu philosophique qui conditionne en fait la thèse de l'idéologie dominante de la classe dominante. L'idéologie dominante par excellence, c'est l'idéalisme, destiné à travestir la place déterminante des intérêts matériels de classe dans le fonctionnement collectif, sous le voile de l'obéissance à des principes supérieurs dont la religion a été longtemps le modèle. La philosophie idéaliste n'ayant fait que prendre son relais. Deuxième ligne de force dont on discerne comment elle peut se lier à la première, mais qui possède une certaine indépendance fonctionnelle par rapport à elle, le rôle du droit dans la mystification bourgeoise. Il convient d'autant plus de la mettre à part qu'elle est celle qui a connu en pratique la plus grande fortune au titre de la dénonciation des droits formels auquel il s'agissait de substituer un fonctionnement réel. Le mensonge bourgeois, on peut bien dire l'auto-intoxication bourgeoise, s'incarne exemplairement dans la proclamation des droits de l'homme. Égalité devant la loi et liberté du citoyen, conçue pour masquer les inégalités très réelles liées au seul droit qui compte véritablement, le droit de propriété. Un droit qui crée, en fait, deux catégories d'acteurs. Les propriétaires et les non-propriétaires, les prolétaires. Le mensonge du droit joue à plein dans le fait du salariat. reposant sur la mystification d'un contrat de travail négocié entre égaux en droit, théoriquement, alors que, en pratique, l'un des partenaires de ce contrat tient en main le sort de ceux qui n'ont que leurs bras à vendre. Droit mystificateur de surcroît en ceci qu'il dissimule la réalité des forces collectives, les classes sociales, en les pulvérisant en individus séparés, en faisant croire aux individus qu'ils sont des individus. À l'écart des classes qui déterminent leur sort. Troisième ligne de force qui s'introduit plus tardivement dans l'œuvre de Marx avec le Capital, l'analyse du fétichisme de la marchandise. Je vous en rappelle en deux mots le principe. Le monde marchand, le monde de l'échange des marchandises produite par le travail industriel contre de l'argent, fait croire à ses acteurs, vendeurs comme acheteurs, que la valeur de ces marchandises réside dans cet échange, en dissimulant le fait que c'est le travail incorporé dans ces marchandises qui crée leur valeur. Le point de vue de la circulation des biens escamote celui de leur production. C'est une autre perspective qui s'introduit avec cette analyse, la perspective d'un mécanisme social qui suscite intrinsèquement et spontanément un effet d'optique illusoire chez les acteurs qui y sont plongés. Je n'entre pas dans la critique de ces différents points. Mon but, encore une fois, n'est que de procéder à un rappel sommaire afin de faire ressortir par contraste la spécificité de l'analyse que je propose sous le même concept. Après Marx, les deux élargissements les plus influents et les plus significatifs de la conception marxiste du rôle de l'idéologie comme production d'un monde social mystifié me semblent être venus de Lukács d'un côté, de l'école de Francfort de l'autre. L'opération qu'il faut bien dire philosophiquement inspirée de Lukács, en particulier dans ce premier grand ouvrage qui s'appelle « Histoire et conscience de classe », qui est un livre de l'immédiate après Première Guerre mondiale, a consisté dans la réappropriation de la conceptualité hegélienne dans le cadre marxiste, à l'heure de la deuxième révolution industrielle et du travail taylorien. Cela se résume en deux concepts, aliénation et réification. Aliénation, étrangeté du producteur à son produit et à son propre travail vivant, traité, on passe à la réification, comme une chose inerte dans le processus de production capitaliste. Ce dont l'usine taylorienne offrait en effet une image assez vraisemblable. L'école de Francfort, pour résumer tout aussi sommairement son apport, est contemporaine, elle, d'abord de l'âge des expériences totalitaires, en Russie, en Italie, en Allemagne, puis des transformations des sociétés bourgeoises qui s'amorcent aux États-Unis dès les années 1920, parce que Gramsci, qui perçoit l'un des premiers le phénomène, va appeler le fordisme, avant de se généraliser dans le monde occidental après 1945, sous le signe de la consommation de masse et des loisirs de masse alimentés par les industries culturelles. On a le produit typique de ces perspectives nouvelles dans un livre comme « La dialectique de la raison » de Horkheimer et Adorno. La leçon des totalitarismes, en particulier des totalitarismes d'extrême droite, fascisme et nazisme, a porté sur la capacité de mobilisation idéologique des masses en période de crise exacerbée, et de fait, même indirectement, même prudemment, c'est dans cette lumière de la manipulation idéologique de masse que sont lus les phénomènes de consommation, de publicité, de divertissement de masse. Autant d'écrans, nous expliquent les auteurs de l'école de Francfort, destinés à masquer à ces masses l'exploitation et la domination qu'elles subissent. Quant à la dialectique de la raison, concept jamais vraiment explicité, elle vient désigner de manière générale ce possible renversement des lumières en leur contraire, ou plus précisément l'englument d'une raison qui n'a de raison d'être que comme raison critique vis-à-vis de l'ordre existant en un positivisme acritique et donc complice de l'ordre établi. Dans le détail, cette théorie critique de la société broche ensemble les différents thèmes que nous avons déjà croisés, aliénation, réification, mystification, répression, en les adaptant à l'époque du capitalisme avancé, comme on dit dans les années 60, où ces théories vont connaître leur plus grande vogue. J'ajouterais volontiers à ce panorama rapide deux contributions hétérodoxes qui ont exercé une immense influence et qui pourraient même mettre aujourd'hui, à l'heure du reflux en tout cas officiel du marxisme, les critiques les plus réellement vivantes de la méconnaissance attachée au fonctionnement de nos sociétés. La critique heideggerienne de la technique et la critique de situationniste de la société du spectacle développée par Guy Debord. Il y a eu après Heidegger d'autres critiques du système technique, pensons par exemple à Jacques Ellul. Mais la critique du système technique de développé par Heidegger a l'intérêt de se lier à une théorie de la méconnaissance. En l'occurrence, dans le langage heideggerien, l'oubli de l'être au profit de l'arraisonnement de l'étant. Quant à la théorie situationniste, elle est en fait une radicalisation de la théorie marxienne du fétichisme de la marchandise étendue à l'univers médiatique. Le spectacle médiatique fait vivre les acteurs dans un univers d'images qui est l'inversion du réel. Quand nous parlons de méconnaissance, il faut savoir qu'il y a derrière cette très riche problématisation. Il ne s'agit pas, encore une fois, de la discuter en détail, mais seulement de faire ressortir par contraste une autre perspective de compréhension du phénomène. Il y a beaucoup de choses qui touchent juste dans ces théorisations, qui cependant sont prises dans une théorisation d'ensemble qui me semble globalement fausse. Toutes ces propositions critiques obéissent pour l'essentiel à un même paradigme. Pour le résumer d'une formule, la mystification au service d'une domination. La tromperie des peuples à l'usage des puissants. Ce paradigme est directement hérité de la critique des religions développée par les Lumières et dont le traité des trois imposteurs a fixé très tôt le modèle. Enfin, les trois imposteurs, Moïse, Jésus et Mahomet. Dans cette critique, la religion, selon cette critique, la religion n'est autre chose qu'une invention des prêtres et des despotes pour duper les populations et justifier leur domination en exploitant la crédulité et l'ignorance des peuples. C'est franchement un peu court comme explication, ainsi que la suite là amplement montré. Il est permis, en toute rigueur conceptuelle, d'assimiler les religions à une méconnaissance, voire même à une aliénation dans la rigueur du concept, puisqu'elles reportent dans un au-delà du monde humain le fondement d'un ordre social et politique manifestement fabriqué par les hommes. Sauf que cette aliénation, admettons le mot, obéit tout aussi manifestement à des raisons qui vont autrement plus loin et plus profond que d'obtenir l'obéissance des peuples en masquant l'injustice de l'ordre existant. Même si, de fait, elles servent d'instrument à cette cause. Des raisons qui constituent l'énigme majeure de l'histoire humaine, et dont toute pensée du phénomène humain social digne de ce nom se doit de proposer une interprétation. Eh bien, il en va de même à propos des idéologies qui ont succédé aux religions comme explication de leur monde social par les acteurs. À partir du XIXe siècle, en fonction de l'émergence de l'orientation historique qui a rendu impossible à méconnaître le rôle actif des hommes dans la construction de leur société. Difficile d'imputer une origine divine à la révolution industrielle, même en faisant beaucoup d'efforts. Nonobstant cette reconnaissance de base du rôle des hommes dans la création de leur monde, ces explications idéologiques restent le plus généralement trompeuses ou mystifiantes. Là est l'énigme, qui ne se réduit pas à la ruse manipulatoire des puissants et à l'ignorance des peuples, même si de tels phénomènes existent. La démocratie, c'est aussi, hélas, et fatalement, la démagogie. En fait, il faut renverser la perspective. La chose du monde la plus difficile et la plus problématique pour l'histoire humaine, manifestement, c'est de regarder sa condition avec des sens sobres, comme disait Marx. Son état normal, religion ou pas, c'est l'illusion et la méconnaissance relativement à ce qu'elle est, comme espèce politique, sociale ou psychique. La question dernière étant de savoir si elle est en mesure de sortir de ce qui est bien plus qu'un état de minorité, ça, en gros, c'est fait, mais, comment dire, d'un état d'infirmité constitutive. Elle tend à se méprendre sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle fait, pour des motifs puissamment enracinés. Mais elle est aussi capable de se le dire, ce qui signifie qu'elle n'est pas inexorablement prisonnière de cet état si difficile que doivent être la tâche de le surmonter. Nous sommes précisément au moment historique où cette question prend son plein relief, parce que nous avons basculé pour de bon dans une société de la connaissance. Une société où l'ensemble des rapports entre les acteurs et leurs activités est basée sur une connaissance fondée en raison, que celle-ci soit d'ordre juridique, scientifique et technique ou économique. Notre problème se complique singulièrement, ce n'est plus à l'ignorance que nous avons affaire, dont on imagine aisément qu'elle puisse s'éduquer, c'est à la connaissance. Or, cette connaissance qui pourrait faire juger que le programme des Lumières est réalisé pour l'essentiel n'empêche pas la méconnaissance. Mieux, elle l'a produit. Cas de figure intéressant, par voie de conséquence, ce sont les mieux lotis, les plus instruits, qui sont les plus mystifiés. La fracture entre les élites du diplôme et les peuples, qui tend à devenir partout dans le monde occidental la ligne de partage des systèmes politiques représentatifs, n'a pas d'autre origine. Ce n'est pas que les moins éduqués en savent plus que les supposés instruits. C'est qu'en plus d'être en général davantage exposé aux retombées de la dite société de la connaissance, ils sont moins sensibles à l'autorité interne des savoirs qu'ils ne maîtrisent pas. Alors qu'à l'inverse, la maîtrise de ces savoirs tend à enfermer leurs heureux possesseurs dans la conviction de leur autosuffisance. Les experts ont beau se tromper de manière répétée et, pour les plus intelligents d'entre eux, sentir que quelque chose échappe à leur expertise, ils n'ont d'autre issue que de persévérer dans la même voie, car il n'y en a qu'une. Cette méconnaissance n'a rien à voir, en son fond, avec le modèle de provenance marxiste. Le modèle d'un intérêt de la classe dominante à la mystification des dominés, afin, dans une perspective utilitaire, pourrait-on dire, de faire des économies en matière de contraintes. Cela ne veut pas dire que cette méconnaissance ne recoupe pas éventuellement des intérêts de classe, nous verrons précisément en quoi, mais ces intérêts n'en sont pas pour autant la source, car tout se joue sur cette nuance logique. L'erreur marxienne et marxiste est de conclure du constat justifié d'une division de classe entre privilégiés et défavorisés à l'idée d'un système social entièrement agencé en fonction de la perpétuation de ces inégalités, y inclut les justifications et les explications communément répandues de ce système social. Premièrement, la méconnaissance dont il y a lieu de parler à propos de nos sociétés de la connaissance est générale dans son principe. Elle affecte potentiellement l'ensemble des acteurs de manière identique, même si elle se traduit différemment ensuite selon leur position et les usages qu'ils sont amenés à en faire. Elle a ses versions de droite et ses versions de gauche, pour le dire simplement. Les contempteurs les plus virulents du néolibéralisme économique peuvent être des néolibéraux qui s'ignorent et de l'espèce la plus radicale sur un autre plan. En second lieu, cette méconnaissance n'est pas le produit de l'imagination intéressée des dominants. Elle est sécrétée en toute innocence par le dispositif social même. Et elle est engendrée par les articulations de la structuration autonome et elle est ratifiée par la connaissance rationnelle, juridico-technico-économique, qu'il est pour le moins difficile, même si on a beaucoup essayé, de rapporter à la domination de classe. Il ne s'agit pas de nier l'existence des classes. Il s'agit de savoir si leur existence a la portée explicative qu'il est devenu banal de leur accorder sans examen. L'État-nation, les droits de l'homme, la démocratie, le capitalisme même s'expliquent-ils par les intérêts de la bourgeoisie, classe dominante au sein d'un système de domination de classe? En rien. Posons-le une fois pour toutes et tirons-en les conséquences. La notion même de système de domination étant à prendre avec les plus grandes précautions. Les inégalités, la stratification sociale, les privilèges, l'influence sont une chose qu'on peut très précisément décrire. Un système de domination en est une tout autre. Et conclure de l'un à l'autre n'est pas simple. Il faut prendre, en fait, le problème à l'envers, une nouvelle fois. Ce cadre politique, social, juridique, économique, une fois posé, cadre qui est à expliquer pour lui-même, il s'agit de comprendre comment et par quelle voie il se prête à la constitution d'inégalités, de privilèges hérités, d'avantages indus, en un mot, à une stratification sociale d'un genre nouveau qui n'a rien à voir avec l'ancienne stratification hiérarchique des sociétés d'ordre et de rang, notamment en ceci qu'elle est en contradiction avec les principes fondamentaux à l'œuvre dans ce cadre. Principes fondamentaux qui ne sont pas faits pour servir cette stratification en dupant les défavorisés, mais qui permettent au contraire de la combattre. Voilà, me semble-t-il, ce qui serait le point de départ d'un véritable socialisme démocratique complètement délivré de l'hypothèque marxiste qui continue d'embrumer les esprits. J'ai posé une hypothèse sur la nature de cette méconnaissance. Elle est méconnaissance des conditions de concrétisation de l'universel abstrait à l'œuvre au travers du droit, au travers de la technique, au travers du calcul économique. Un universel opératoire, issu de rien d'autre que de notre pensée, mais conçu pour se projeter dans le réel, pour s'appliquer, pour se concrétiser. Nous touchons ici à la véritable racine de la vita activa des modernes, la pensée devenant action, à l'opposé de la vita contemplativa des anciens, tournée vers la communion spirituelle avec les vérités éternelles, ou bien de l'ordre cosmique, ou bien de l'ordre divin. Avec un immense problème à la clé, que nous ne faisons que commencer à découvrir. Maintenant que la dynamique de cette concrétisation est complètement libérée par la décantation de la structuration autonome. Le problème est que cette dynamique est autodestructrice. Elle ignore ses limites et elle tend à détruire les limites à l'intérieur desquelles sa réalisation est susceptible de s'opérer. Elle tente à créer un monde humain, social, qui nous dissocie de nous-mêmes, tout en nous révélant à nous-mêmes, et dont le cours, pour finir, nous échappe. En d'autres termes, ce processus de concrétisation de l'universel abstrait, tout tissé de pensée qu'il est, ne se pense pas. Il travaille à la connaissance, mais il se méconnaît. Voilà très exactement le nom de notre problème. Voilà en quoi il requiert un autre genre de connaissance que celui qu'il cultive spontanément. Voilà en quoi il en appelle à un autre mode de pensée dont le juste concept est l'auto-réflexion. Auto-réflexion dont l'objet est à la fois de justifier le mode de pensée autonome selon l'universel abstrait. Nous n'en avons pas d'autre. D'en dégager les conditions de possibilité. Il n'a pas toujours existé et il n'est pas descendu du ciel. Et enfin, de mettre en lumière les limites dans lesquelles il peut valablement s'exercer sans détruire ses conditions de possibilité. Triple objet, donc, qui revient à fonder pour de bon cette entreprise de concrétisation de l'universel abstrait contre l'illusion qui lui est intrinsèque de véhiculer. Illusion de son auto-fondation et de son auto-suffisance. Vous avez reconnu la démarche que Kant appelle critique, transportée dans un tout autre domaine, où il s'agit moins des limites de la raison humaine en matière métaphysique que des limites de la rationalité pratique. Rationalité pratique, dans l'emploi qui en est fait ici, n'ayant rien à voir avec la raison pure pratique de Kant, qui porte, comme vous le savez, sur la moralité. Les limites de la rationalité pratique en matière de construction d'un monde humain effectivement viable et gouvernable, autrement dit, autonome pour de bon. Ces deux concepts, auto-réflexion et critique, sont également recevables dès lors qu'on prend la peine de bien en déterminer le sens contre les dévoiements de toute nature auxquels ils ont donné lieu. À titre personnel, je me rabats plus volontiers sur l'auto-réflexion à la fois pour des motifs philosophiques sur lesquels nous reviendrons et pour un motif beaucoup plus terre-à-terre qui est qu'il est très difficile de rendre à cette notion de critique sa portée première au regard des insanités sans nom qu'elle recouvre le plus généralement aujourd'hui. Reprenons donc plus en détail nos trois éléments de la structuration autonome, politique, droit, histoire, pour examiner comment fonctionne effectivement la méconnaissance et quels sont ses effets, en gardant à l'esprit la proposition générale. Ce qui tend à être méconnu, c'est l'être en société, l'articulation de l'être soi et de l'être ensemble qui porte le monde humain social, qu'il s'agisse de politique, de droit ou d'histoire. La proposition de base à laquelle nous étions parvenus s'agissant de la décantation, de la métamorphose du politique dans le cadre de la radicalisation de la modernité, la décantation de la fonction instituante et médiatrice du politique qui le fait basculer dans l'infrastructure, masque son existence, le rend invisible en quelque sorte, en tout cas inintelligible dans son rôle. Il y a en effet quelques paradoxes à parler d'invisibilité du politique au moment où les États-nations n'ont jamais été aussi puissants en Europe, jamais ils n'ont disposé de tels moyens qui se traduisent dans les chiffres de leurs dépenses. On nous en parle assez, nous devrions savoir cependant. De là à conclure à la place qu'ils tiennent, il y a un pas qui apparemment est infranchissable. Jamais ils n'ont été l'objet de telles demandes collectives, de telles attentes. Jamais ils n'ont tenu une telle place dans pratique, dans la vie des sociétés, et pourtant, c'est ainsi. Plus ils sont gros, moins on les voit, moins leur fonction est comprise. Avec de grandes conséquences pour leur fonctionnement. Redescendons là sur un terrain très prosaïque. La première de ces conséquences, c'est la crise fiscale dans laquelle ils se trouvent tous. Crise fiscale plus ou moins masquée selon les endroits par leur mise en concurrence fiscale, précisément. Les citoyens contribuables renâclent. Nous revenons à de certains égards à la problématique d'origine du gouvernement représentatif. Pas de taxation sans représentation, pas de représentation, hein, pas de taxation sans représentation. On voudrait savoir où notre argent va. C'est pas une demande qui n'est pas entièrement injustifiée, hein, à côté de, d'une méconnaissance plus profonde. Et les acteurs les plus riches, c'est-à-dire les entreprises, ont pour programme la fuite organisée devant l'impôt. À la belle époque de la lutte des classes, quand les possédants regardaient l'appareil d'État comme leur rempart ultime contre la subversion des rouges, au moins acceptait-il sans trop d'état d'âme de contribuer à ses dépenses. La séparation de l'économie liée à cette métamorphose du politique, séparation de la société civile à l'intérieur, ouverture sur l'extérieur, a complètement changé la donne. Dans le cadre de l'économie pleinement séparée, parce que mondialisée, hein, ça c'est le paramètre supplémentaire amené au-delà de l'analyse du désencastrement de Polanyi, les entreprises, celles en tout cas qui ont les moyens de l'internationalisation, sont organisées sur le plan comptable pour se soustraire à l'impôt dans toute la mesure du possible. Ce n'est pas une affaire de choix personnel, c'est une logique économique avec la justification idéologique afférente. Nous avons affaire à des gens sincèrement convaincus de représenter les organisations utiles de l'avenir global par rapport à des appareils politiques d'intérêt local obsolète. Les plus enthousiastes vont d'ailleurs jusqu'à croire à leur vocation à se substituer à ces appareils. Nous voyons émerger quelque chose comme une féodalité, c'est-à-dire au sens strict d'une appropriation privée du pouvoir politique. Mais une féodalité d'un genre inédit, une féodalité déterritorialisée. En fait, si l'on y regarde de plus près, on se trouve devant un phénomène assez classique de parasitisme consistant à exploiter les avantages des ancrages territoriaux, car rien de ce fonctionnement économique ne serait possible sans le socle infrastructurel fourni par les États-nations, et de préférence en bon état de marche. Exploiter les avantages de ces ancrages territoriaux sans avoir à en payer le prix, grâce au contournement permis par l'ouverture structurelle de ces mêmes territoires politiques. Encore sommes-nous là devant un fonctionnement officiel. La même logique ouvre l'espace d'une mondialisation criminelle avec laquelle nous n'avons pas fini de compter. Ce sont là les maladies infantiles de la seconde mondialisation, comme l'impérialisme colonial a représenté la maladie infantile de la première mondialisation. Ceci pour bien marquer le fait que l'invisibilité du politique, ainsi comprise, n'est pas un phénomène regardant la théorie pure. Elle concerne au plus haut point la vie matérielle de nos collectivités. Méconnaissance de la fonction instituante et médiatrice du politique, devenue comme invisible, cela se traduit par le fait, par l'illusion, que le fait de société est un fait naturel. Comme si les sociétés tenaient toutes seules ensemble. De ce point de vue, l'inversion par rapport au climat de fonctionnement des sociétés traditionnelles, on peut encore en observer un certain nombre, assez ébranlé, mais tout de même en état de marche, est saisissant. Ce qui est le trait frappant du climat de la vie collective dans les sociétés qu'on appelle traditionnelles, disons, régies dans notre langage par la structuration hétéronome, c'est l'anxiété sur le maintien et l'entretien du lien de société. Pour les nôtres, mais de par la puissance des infrastructures politiques qu'elles ont mises en place, c'est le cadet des soucis de tout un chacun. Nous sommes les premières sociétés à se penser. Non, il y a des tas de théorisations sur le caractère naturel des sociétés. C'est autre chose. Parlons de la manière dont elles fonctionnent. Le fond de la représentation dominante du social actuel est un naturalisme. Autrement dit, l'oblitération de la dimension symbolique et du caractère institué de l'être ensemble. Méconnaissance de la fonction médiatrice du politique, cela se traduit par la croyance au caractère immédiat de l'action collective. Comme si une collectivité avait la capacité d'agir directement sur elle-même en tant que collectivité. Croyance, de la même façon, au caractère immédiat de l'ouverture des sociétés les unes sur les autres. Comme si la libre circulation et la libre activité des individus d'une société à l'autre allaient de soi, en oubliant le formidable travail depuis au moins le XVIIIe siècle qu'il a fallu pour permettre cet échange entre communautés politiques. Croyance, en fait, en dernier ressort, qu'il n'y a que des individus de droit, avec une série de conséquences qui vont très loin. Dans un premier temps, nous l'avons déjà évoqué, ce postulat a pour effet de légitimer la politique, comprise comme représentation de la société des individus de droit. Mais en réalité, nous sommes en train de nous en apercevoir, l'admission du pouvoir représentatif n'est qu'une transition, un compromis temporaire. Soit il y a un pouvoir, ça se passe d'ailleurs dans le cadre des monarchies constitutionnelles du XIXe siècle, il y a un pouvoir, mais qu'au moins il s'exerce par représentation. C'était le consensus qui s'était installé, tant bien que mal, dans nos sociétés. Mais dans un second temps, ce fait même du pouvoir vient à être interrogé par la logique des droits. Entre des individus de droit, le seul pouvoir admissible, lorsqu'on pousse la logique au bout, est le pouvoir de l'arbitre, le pouvoir judiciaire, qui tranche leur litige et définit les règles de leur coexistence. La logique de l'état de droit, c'est le droit sans l'état. Ce qui reste de la politique, en tendance, c'est un marché des droits, arbitré par des juges. Mais, comme la méconnaissance ne signifie pas la disparition de ce qui est méconnu, cela donne en pratique des acteurs qui comprennent mal le cadre dans lequel ils évoluent, qui n'ont plus le sens des fonctions qu'ils remplissent, s'agissant, par exemple, et l'exemple est privilégié, des responsables publics, ou qui souffrent de l'absence de ce qu'ils sont portés à ignorer. Ils dénoncent les instances auxquelles ils font appel. Là-dessus, la psychanalyse nous a appris des choses qui nous rendent le mécanisme assez familier. Cette réduction du politique à la politique, réduction permise par le politique, a pour effet de mettre la politique profondément en crise. Jamais le sentiment d'être mal représenté ou de ne pas l'être du tout n'a été aussi fort. Alors que la politique n'est plus faite que de la représentation de la société. Et que le personnel politique s'efforce comme jamais de coller aux vœux et aux aspirations de la dite société jusqu'à la démagogie la plus effrénée. Mais même ça ne marche pas. Il y a une crise de la démagogie. Aspects les plus remarquables de la situation politique actuelle des démocraties européennes. Le sentiment d'inadéquation du personnel représentatif se nourrit d'autre chose. Le problème est ailleurs. Supposons, par une expérience de pensée, qu'il représente parfaitement la société, qu'il soit son expression la plus conforme possible dans sa diversité, eh bien, nous pouvons parier qu'il décevrait encore ses attentes. Car ce qu'on attend de lui, c'est autre chose. Ce qu'on attend, ce qui est attendu de lui en plus de la représentation de la société, c'est qu'il représente le politique et ses contraintes, et qu'il les mette ainsi à la portée des citoyens qu'ils les rendent lisibles. C'est la raison pour laquelle les circonstances dramatiques qui mobilisent les fonctions régaliennes des gouvernements ont souvent pour effet de rehausser mystérieusement l'image des gouvernants, pour peu qu'ils, les titulaires de la fonction, se montrent à peu près à la hauteur de la tâche. C'est historiquement la guerre qui a tenu le plus souvent cet office, mais nous avons eu un exemple de laboratoire tout récemment qui fait réfléchir de ce point de vue, avec la soudaine présidentialité, émergence d'un concept, d'événement dans la science politique, de notre président, soupçonné de ne pas tout à fait la posséder, à la suite des attentats de janvier. On voit là, tout d'un coup, comment un représentant cesse de représenter simplement ses administrés. Il représente autre chose. Quoi ? La puissance de l'État, de protéger la collectivité. Et ce n'est pas tout. Il est attendu du pouvoir représentatif qu'il mette en représentation les éléments d'un diagnostic historique relativement aux données de la situation. Dimension capitale du processus représentatif, sa dimension cognitive. Il est ce qui permet à une collectivité d'identifier les problèmes qui se posent à elle, de manière à rendre l'histoire dont elle participe et qu'elle contribue à créer déchiffrable et maîtrisable. Il n'est pas difficile de remarquer que c'est sur ce dernier chapitre que le gros de la crise de la représentation, dont on parle tant, a en réalité son foyer. Nous sommes en Europe tout à fait singulièrement, pour des raisons dont nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer, dans une situation tout à fait particulière d'impuissance du politique à opérer le diagnostic dans lequel pourraient se reconnaître les citoyens, avec les conséquences qui ne manque pas de s'en suivre. En résumé de ce résumé, le mécanisme est le suivant. Il y a auto-effacement du politique. Il sécrète de lui-même la méconnaissance de son rôle. Une méconnaissance verrouillée dans un second moment par le déploiement du droit. Que permet le politique ? Lequel déploiement porte à l'explicite la réduction du politique ? La réduction du politique à la politique représentative, tout en brouillant le fonctionnement et l'objet de celle-ci. Résultat, la crise de la politique que nous observons au quotidien, l'espèce d'implosion lente qui l'affecte, dont on pourrait multiplier l'examen des symptômes, cette crise renvoie à ce décalage entre les idées officiellement en vigueur et la réalité du fonctionnement de nos sociétés et de nos régimes. La politique joue contre le politique dans lequel elle s'enracine. elle s'autodissout en visant à s'y substituer par la simple dynamique interne de ses principes. Il y a divergence et pour finir contradiction entre les conditions de possibilité qui se situent du côté du politique et la chose que ces conditions de possibilité rendent possible, la politique selon le droit. Le diagnostic ouvre de lui-même ici sur une solution. La politique ne peut valablement fonctionner qu'en prenant explicitement en charge le politique. Il s'agit d'assumer leur convergence là où, spontanément, notre mode de fonctionnement autonome installe la divergence. Pour préciser ce constat et cette perspective, il nous faut revenir sur le politique en question, par deux bouts. D'une part, en repartant de la formule générale de la structuration autonome et des quatre traits qui l'opposent à la structuration hétéronome, d'autre part, en regardant de plus près la mise en forme autonome du politique sous les traits de l'État-nation. Vous vous souvenez de ces quatre traits fondamentaux qui distinguent hétéronomie et autonomie, pouvoir de domination hétéronome versus pouvoir par représentation autonome, lien hiérarchique entre les êtres versus lien égalitaire, incorporation holiste versus déliaison individualiste, enfin, obéissance au passé de la tradition versus invention de l'avenir. Ces oppositions trop simples sur le papier demandent à être sérieusement nuancées. Pour le dire en deux mots, enlever la domination tombant d'en haut pour lui substituer la représentation issue d'en bas, il reste de l'un à l'autre le fait du pouvoir que la représentation ne permet pas de penser tout à fait. Domination, si l'on veut employer ce concept avec rigueur pour le faire coller aux données historiques, cela veut dire quelque chose de très précis. Il faut le souligner contre l'usage abusif du terme issu de la traduction, ici de la tradition marxiste, la classe dominante. Domination, dans la rigueur du concept, cela signifie pouvoir d'imposition au nom d'un principe d'ordre supérieur, surnaturel ou transcendant, en vue de réaliser l'union avec ce principe supérieur. Ce qui ouvre la domination sur l'illimité de la domination. la révolution moderne de l'autonomie a consisté à renverser cette relation en faisant donc du pouvoir une émanation de la collectivité auquel il s'applique, sur la base des droits des individus citoyens. Et en faisant ainsi surgir l'espace de la politique, alors que l'hétéronomie ne connaissait que le politique, appuyé sur une légitimation religieuse. Mais représentation ne veut pas dire effacement du fait du pouvoir, comme la notion tente aisément à l'accréditer en réduisant cette représentation à un pur instrument de la collectivité. Elle réclame au contraire de donner toute sa place à ce fait constitutif de l'être humain social. Il y a pouvoir parce que les communautés humaines ont du pouvoir sur elles-mêmes. Elles ont la capacité de se définir et d'agir sur elles-mêmes en tant que communauté à l'échelle de leur ordre d'ensemble. Ce qui passe, là commence le mystère, par une instance séparée qui les place en extériorité vis-à-vis d'elles-mêmes. Et une instance qui, plus mystérieusement encore, tend à être personnifiée, identifiée à une individualité particulière. Une instance médiatrice qui met la communauté humaine en rapport avec elle-même, en la disjoignant d'elle-même. Et une instance médiatrice qui lui ouvre une capacité d'agir sur elle-même au nom d'une idée d'elle-même, autre trait crucial. Un pouvoir est idéaliste ou n'est pas. Il fonctionne toujours par l'appel à un principe dont il se veut le relais effectuant. Cette idée pouvant d'ailleurs être le matérialisme. Il n'y avait pas plus idéaliste que les régimes matérialistes, on a pu s'en apercevoir en grand. Historiquement, cette dimension idéale ou idéale a été captée massivement par les religions, qui à la fois exaltaient le fait du pouvoir, en le rattachant au plus haut, et l'occultait dans sa nature propre, en faisant une sorte d'émanation terrestre du monde d'en haut. La représentation des modernes tend à opérer une occultation inverse, en faisant du pouvoir une émanation de la société où sa nature de pouvoir disparaît. Il y a une difficulté intrinsèque à situer cet objet comme instrument de relation et d'action de la collectivité à l'égard d'elle-même. Un instrument à sa disposition, mais demandant à être regardé comme pouvoir ce qui ne va nullement de soi. Ce qui a permis cette translation du pouvoir de domination au pouvoir par représentation, c'est la mise en forme moderne du politique sous l'aspect de l'État-nation. Le politique se donne en effet concrètement dans l'histoire, dans des formes bien définies de communauté et d'autorité. Des formes en très petit nombre. Je passe sur les formes pré-étatiques que l'on peut dire segmentaires ou tribales. Les mots ici sont difficiles à fixer. À partir du moment où émergent les appareils de domination institutionnalisés, les États, donc, on va voir coexister, se concurrencer, se succéder trois formes politiques de base. La cité, le royaume, l'empire. Trois formes qui ne sont pas de hasard, elles correspondent aux trois formes possibles d'articulation du religieux et du politique. La nouveauté de l'État-nation moderne, ou il faudrait mieux dire du système des États-nations modernes, car la pluralité est ici essentielle, qui, système qui se forge sur 5 siècles, hein, et d'imposer une forme unique du politique, qui est à beaucoup d'égards une fusion des trois formes dont elle prend la relève. Il y a, en effet, dans l'État-nation, de la cité, du royaume et de l'empire. Il est un peu tout ça dans des proportions qu'on peut assez exactement définir. Je me permets de vous renvoyer, pour ce qui est de sa genèse et de sa spécificité, à l'exposé synthétique que j'ai essayé d'en donner dans la Révolution moderne. Ce qui m'intéresse ici, c'est le résultat. Le miracle de l'État-nation moderne, c'est d'avoir redéfini la forme du pouvoir qui reçoit précisément en fonction de cela le nom d'État d'une manière qui l'a rendu appropriable par la communauté sur laquelle il s'exerce. Chose qui nous paraît aller de soi alors qu'elle va au rebours du sens commun qui a prévalu sur la plus longue durée de l'histoire humaine. Un pouvoir n'est pouvoir que s'il s'impose à ceux qui ont à lui obéir ce que les religions garantissaient à merveille. C'est au demeurant cet argument qui a nourri l'incrédulité conservatrice prolongée à l'égard de l'univers démocratique dans la modernité. Comment voulez-vous faire un pouvoir qui vient des gens qui vont ensuite devoir s'y soumettre? Ça ne marchera jamais. Ben si, ça marche. C'est un peu compliqué. Et le second miracle, c'est d'avoir rendu le lien de communauté individualisable, au rebours, de nouveau, du sens commun. Un lien n'est lien, il ne tient efficacement les êtres ensemble que s'il les oblige indépendamment d'eux, d'avant eux et en dehors de leur volonté. Eh bien, à l'intérieur d'une nation de citoyens, c'est ce qui devient possible. Mais ce n'est pas dans la nature des choses. Pour le moins. Ce n'est pas ce dont l'histoire nous offre spontanément le témoignage, en effet. C'est ce qui fait penser toujours à beaucoup de très bons esprits que nos sociétés modernes sont antinaturelles. Leur idée de la nature étant précisément que pareille chose n'est pas réalisable. Eh bien, ce qu'il faut penser, c'est au contraire leur réalisation, qui en effet passe par des détours et nous met devant des énigmes majeures relativement à ce qui fait exister et permet de fonctionner à ce que nous appelons depuis peu des sociétés. Pouvoir appropriable, lien social individualisable, dans certaines limites. La limite qui est celle de la communauté politique ainsi créée et du pouvoir qu'elle est en mesure d'exercer à son propre sujet. Et c'est là qu'on voit la tension apparaître. Car l'individu de droit qui devient concevable et institutionnalisable dans le creuset de cette nouvelle forme politique n'est aucunement disposé spontanément à s'accommoder de ses limites. S'il n'y a que des individus universels de droit, il n'y a aucun pouvoir de la communauté en tant que tel susceptible de les obliger. De même qu'il n'y a aucune limite territoriale, aucune frontière qui puisse les enfermer dans sa particularité. Là est le ressort de la contradiction sur laquelle débouche la méconnaissance. L'universel du droit en l'occurrence, entre en contradiction avec la particularité de l'État-nation en l'occurrence, qui le rend possible. Dans les deux sens du mot, qui a rendu possible son émergence au passé et qui rend praticable sa concrétisation progressive au futur. Nous approchons avec cette dialectique du particulier et de l'universel du cœur de notre problème. Encore faut-il prolonger l'analyse amorcée à propos de la représentation. Pas plus que la représentation n'élimine le fait du pouvoir, l'égalité de nature entre les êtres n'élimine pas le fait de l'autorité et la relation de commandement-obéissance. Elle en change radicalement la nature et les modalités par rapport au monde de la hiérarchie, mais elle le reconduit. Mais elle les reconduit pour des raisons qui tiennent à nouveau à l'être en société et à l'essence de l'action, comme phénomène spécifiquement humain. L'action supposant la mobilisation de groupes humains. Et le groupe humain ne se concevant pas sans une organisation qu'on appelle, nous n'avons pas d'autre mot, bien qu'il nous trompe, hiérarchique, construite autour de l'autorité qui définit les buts de cette action. De la même façon encore, la disparition de l'incorporation holiste au profit de l'individualisme n'élimine pas l'appartenance, l'inscription de l'individu dans le collectif. De la même façon, la substitution de l'invention de l'avenir à l'obéissance à la tradition n'élimine pas et la dépendance envers le passé et l'obligation de situer la nouveauté introduite en permanence par cette invention au regard de l'histoire déjà advenue. La tradition avait cet avantage immense qu'elle rendait la tâche facile en décrétant que l'avenir ne pouvait être autre chose que ce qu'avait été le passé. La projection dans le futur rend la chose, en revanche, fort difficile, mais non moins incontournable. Et dans cette invention de l'avenir, l'universel technique et l'universel marchand ne peuvent pas se substituer davantage à la particularité naturelle et aux singularités sur lesquelles ils donnent prise, même si une dynamique très puissante les pousse dans cette direction. À tous les nouveaux, nous retrouvons cette problématique d'une articulation de la particularité et de l'universalité à substituer à leur contradiction qui s'est installée à la faveur de notre société de la connaissance et de sa méconnaissance. C'est ce que nous essaierons de voir de plus près la prochaine fois. Donc.
Parler de concrétiser dans l'universel abstrait par un projet collectif, c'est au nom de la collectivité qui est une idée d'elle-même. Est-ce que, compte tenu, je reprends les mots que vous avez employés, vous avez parlé de particularité, vous parliez des territoires et des frontières la dernière fois, comme incontournables, et je pensais à un article qui est publié dans Monde cette semaine de Jacques Julliard, qui est un outil fait d'une manière différente par un biais d'un sujet qui est proche du vôtre de même, et alors lui parle de la nécessité du besoin d'enracinement. C'est-à-dire qu'il emploie un concept, peut-être qu'il y a plus ou moins sur le site de Dostoïevski, qu'on trouve dans l'anarchie, qu'on préparesse aussi, et que le test assez fort. Donc, si vous voulez, la question ne peut pas se toucher, peut-être c'est un peu rapide, mais la question qu'on va s'obliger de se poser, c'est est-ce que, en essayant de redonner un projet collectif, est-ce qu'on ne risque pas tout simplement la régression vers un retour à une sorte de structure interne, parce qu'il est possible dans le contexte d'avoir un projet collectif qu'il soit en fait autre chose que le retour à l'éternuie. C'est, me semble-t-il, ce que je pense.
Écoutez, premièrement, sur le plan factuel, s'il y a une chose qui, à horizon prévisible, ne nous menace pas, c'est le retour du collectif oppresseur. Pas vraiment le programme. Ça peut changer, évidemment. Mais surtout, ça c'est anecdotique, le point de fond, évidemment, c'est que l'autonomie, si elle met l'accent d'une façon tout à fait centrale sur l'individualité, non seulement n'élimine pas la dimension collective, mais permet véritablement de la penser et lui donne des dimensions sans précédent, qui sont plutôt de nature à servir l'individualité en question. Prenons l'exemple le plus simple, le plus parlant. Une société d'individus est une société d'individus éduqués. Pour faire des individus, il faut un effort collectif gigantesque, dont le déploiement des appareils éducatifs depuis 2 siècles, nous sommes là pour nous en apercevoir, et la concrétisation. Donc, c'est justement ce dont il faut sortir, c'est de cette opposition binaire dans laquelle nous sommes enfermés, pour comprendre une articulation où les termes ne jouent pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. C'est ça notre problème très précisément. Alors, un mot à propos de ce concept d'enracinement. Je crois qu'il vient surtout, dans le cas de Jacques Julliard, de Simone Veil, qui n'est pas Barrès. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais parce que les mots ont une histoire et ils ne sont jamais que ce que nous en faisons. Personnellement, je me méfie de ce mot pour les raisons qui tiennent aussi à son hérédité chargée, mais ça, encore une fois, jamais ça ne peut être une raison déterminante, parce qu'on peut prendre un mot qui a une connotation très déplaisante pour lui en donner une meilleure. Mais surtout parce que ce qui me gêne dans ce concept d'enracinement, c'est qu'il ne me paraît pas désigner de façon adéquate ce qui est le vrai besoin. Si je puis dire, ce concept mélange l'espace et le temps. Et le problème principal pour les acteurs du monde moderne me paraît être le temps bien plus que l'espace. Je veux dire par le temps historique. Ce à quoi nous avons besoin d'être liés, fondamentalement, sauf à être perdu, sens littéral du mot, dans le monde où nous sommes, c'est à un passé assumé en conscience. À partir de là, et la compréhension du devenir dans lequel nous sommes pris. À partir de là, si je puis dire, l'espace devient très secondaire. C'est enracinement ne permet pas de mettre le doigt sur le lieu où ça se passe très précisément, qui est l'histoire. C'est l'insertion dans une histoire qui permet tout d'abord de comprendre un peu qui on est, d'où on sort, sans être hanté par un passé dont on ne comprend rien. et le sentir confusément avec tous les effets de désorientation qui en résultent. C'est là que ça me semble se passer. Mais pourquoi pas l'enracinement dès lors qu'on fait l'effort de bien dire de quoi il s'agit. Et cet enracinement est le premier chemin du collectif. Parce que c'est le lien à ce qui vous a fait qui n'est pas de vous. Et qui est, comme disait Auguste Comte, il y a beaucoup plus de morts que de vivants. C'est là que ça se passe. C'est pas le fait, c'est pas les morts en soi qui comptent, c'est ce qu'ils nous ont légué, évidemment.
Oui, vous avez utilisé à un moment cette formule de point de départ d'un socialisme démocratique. J'ai pu comprendre, mais je n'ai pas compris, que ce point de départ était simplement le fait de renoncer au système d'explication marxiste sur l'exploitation.
C'est un peu plus large que ça. Non, je veux dire, si vous voulez, le marxisme nous enferme, et je crois que l'expérience historique est là-dessus assez probante, dans une espèce de dilemme ou de tout ou rien. Tout est lié à la domination de la classe bourgeoise dans le cadre du mode de production capitaliste, c'est-à-dire que, encore une fois, la forme politique, l'État-nation, le système juridique, les droits de l'homme, La compréhension philosophique même que nous avons du mécanisme social dépendent de cette base assurée par le mode de production. Donc, il y a à la fois le problème de l'intelligibilité de ce monde et il y a le problème pratique de qu'est-ce qu'on fait. Donc, il ne peut qu'être renversé. Il n'y a rien de possible à l'intérieur de ce cadre. C'est ou le capitalisme ou le communisme. Lequel communisme implique la destruction de la démocratie, des droits individuels, de l'État-nation comme autant de formes de la mystification. Quand je parlais de socialisme démocratique, je parlais de la perspective qui s'ouvre à partir du moment où on considère, à l'inverse, qu'il y a indépendance de la structure politique, la forme politique moderne. C'est pas le capitalisme qui l'explique, c'est à mes yeux le contraire. C'est-à-dire c'est à l'intérieur du politique moderne, la forme État-nation, qu'est devenu possible quelque chose comme un capitalisme moderne. Je ne parle pas du grand commerce qui existe effectivement millénairement. C'est de la même façon, les droits individuels existent indépendamment de la propriété bourgeoise. Ça, c'est un débat historique qui a fait couler des kilomètres d'encre. De la même façon, à mon sens même, le capitalisme relève d'une explication qui n'a rien à voir avec le système de domination bourgeois, les intérêts de la classe dominante. Donc, il est lié fondamentalement à l'orientation historique. Dans tous les cas, on peut contester ces explications, mais ce que je veux dire, c'est que l'ensemble de ce cadre est indépendant de l'explication par l'exploitation et la domination de classe. À partir de ce moment-là, on est évidemment bien obligé de rendre compte des phénomènes très réels d'oppression, de privilèges indus, d'avantages insoutenables qui ont lieu. Mais ils ne sont pas fonction du cadre. Ils sont des choses que le cadre rend possible, en général, me semble-t-il, par des détournements dont on peut assez expliquer assez aisément la nature, et sur lesquels on peut agir indépendamment de son renversement au nom même des principes qui sont les siens. D'où démocratie. On se sert de la démocratie comme l'instrument qui permet de corriger les dysfonctionnements qui surgissent à l'intérieur d'un cadre qui n'est pas lié à l'exploitation et à la domination capitaliste. Voilà. C'est ça la perspective politique. J'aurais tendance à dire de ce point de vue qu'on peut répéter un siècle après et plus radicalement la phrase de Bernstein, qu'elle ose paraître ce qu'elle est. En gros, lui, qui restait un pur et dur marxiste, en fait, sur le fond, voulait dire la pratique de la social-démocratie allemande, en l'occurrence au travers des syndicats, est réformiste, qu'elle ose dire ce qu'elle est. Mais je dirais que le pas qui reste à faire au socialisme démocratique, c'est d'oser l'être théoriquement, pas seulement en pratique. Il est réformiste, c'est évident, je n'apprends rien à personne. Il est réformiste, mais il reste pris dans un cadre de pensée dont la logique est révolutionnaire et n'a de sens que comme révolutionnaire. Si vous êtes marxiste et pas révolutionnaire, vous êtes simplement incohérent. C'est un droit de l'homme sacré, mais c'est néanmoins comme ça. Voilà. Le socialisme démocratique n'a pas sa lecture propre de la société. Et de ce fait, il est effectivement en permanence exposé à la surenchère révolutionnaire, dont il ne sort pas, avec les complexes moraux de diverses natures qu'on peut observer aisément.
Est-ce que ce socialisme démocratique peut être ce que vous dites, ce que vous démontez, sans le droit?
Mais non, il ne peut pas, ça fait part, évidemment, mais ça, c'est bien ce que je dis. Ni le politique, ni le droit, ni même le capitalisme, terme sur lequel il faudrait bien s'entendre, évidemment. Je veux dire, que je sache, c'est comme ça qu'on a commencé à comprendre un peu les choses quand j'étais petit, l'Union soviétique, c'était un système capitaliste d'État, mais ça ne changeait pas le mécanisme capitaliste. Alors, on peut, à l'époque, la naïveté était de dire justement, il faut vraiment abolir le capitalisme. Ça, je crois qu'il vaut mieux réfléchir à ce que c'est. C'est plus, et voir ce qu'il comporte de difficile à dépasser. En fait, le capitalisme comme système, au sens marxiste du mot, n'existe pas. C'est un assemblage historique sur l'articulation duquel on peut jouer, justement, par le droit. Par le droit, par la politique. Autrement dit, pour être réformiste, il faut une base. Et la base, c'est le droit qui l'a fourni. C'est-à-dire, l'idée de justice, c'est pas une idée qui peut se définir indépendamment d'un système de droit. L'idée d'égalité est la traduction en bonne grammaire philosophique. L'égalité n'est que une formule supposée de la justice. C'est la justice qui est première. Après, est-ce que la justice et l'égalité, c'est le point de la discuter. Et qu'est-ce que c'est égalité?
Vous vous rappelez, je ne sais pas à vous que Platon dit que dans sa cité, dans la République, il faut que les juges soient philosophes.
Oui, je suis pas sûr que Platon soit tout à fait utile dans la circonstance. Mais ça, c'est une autre question. Je vous en prie.
Si vous voulez bien, j'aimerais revenir à votre première partie du cours sur le problème de la méconnaissance. Vous parliez de la méconnaissance comme une sorte de modalité essentielle des sociétés humaines. Et j'ai du mal à comprendre quelle différence vous faites avec les différentes formes de connaissances, de méconnaissances, pardon, qu'il y a pu avoir au cours de l'histoire, à travers les mythologies, les religions, et dernièrement la théologie, et qu'est-ce qui différencie presque ontologiquement ces formes de méconnaissances avec celles qu'on connaît actuellement dans nos sociétés de la connaissance.
Ben, ça, c'est le cœur de notre affaire, si vous voulez. Les méconnaissances que nous, dans lesquelles nous nous trouvons, on présente tout de même cet avantage de pouvoir être questionné de par leur nature même. Quand vous avez affaire à une mythologie ou à une théologie, de par sa nature, elle est habitée par l'autorité d'une révélation, au sens diffus du mot. Qu'est-ce que vous voulez aller ? Vous ne pouvez pas aller contre. C'est comme, à partir du moment où vous avez un fondement autonome, toutes ces méconnaissances modernes, elles ont une prétention à s'enraciner rationnellement. Et de ce fait, elles sont accessibles à la critique, dans le sens bien entendu du mot. C'est-à-dire, on peut dire, oui, mais ces fondements, en sont-ils vraiment ? Et les conséquences que vous tirez de ces prémices sont-elles absolument justifiées ? Vous voyez ? C'est ça la clé de la chose. C'est le passage qu'on appelait classiquement de la révélation à la raison représente tout de même, même si ces termes sont un peu mythologiques dans la pratique, un pas considérable qui ouvre des possibilités d'action intellectuelle, alors là, absolument inédite. Ce n'est pas la même chose.
Oui, pour reprendre notre exemple, les experts, les sachants, les diplômés ne sont pas nos nouveaux prophètes, ou alors, dans quelle mesure la connaissance serait plus ou moins accessible aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les sociétés théologiques ou mythologiques ou autres.
En général, il y a une différence essentielle, tout de même. Il faut faire un minimum de sociologie. La mythologie ou théologie sont entre les mains de prêtres, de spécialistes, de virtuoses, dans des sociétés d'analphabètes. Donc la coupure entre ceux qui sont du côté de l'initiation au mystère, qui forme la clé de voûte de l'organisation collective, et ceux qui se contentent de recevoir, est radicale. L'expert, quelles que soient ses prétentions et ses capacités de raconter des bobards, évolue comme un spécialiste limité à l'intérieur d'une société d'individus éduqués qui ont de surcroît les moyens d'accès à une information large. Vous pouvez toujours... C'est l'exemple bien connu de la situation éducative d'aujourd'hui. Les élèves, pour regarder sur Wikipédia, si ce que raconte le prof est vrai ou pas. C'est le début. Ça me semble très positif. Ça peut donner lieu à quelques dévoiements, mais d'accord. Mais dans le principe, c'est ça. Le rapport à l'expertise s'effectue dans des conditions sociales qui n'ont rien à voir et dont on peut s'en féliciter avec ce qu'est la coupure entre un personnel religieux et des fidèles chez lesquels toute contestation est comprise comme hérésie. De quoi ils se mêlent ? Vous voyez ? Ça fait tout de même un vrai départ. C'est-à-dire nous sommes moins mal armés que nos ancêtres, en dépit de tout. En somme, il y a des progrès.
Le débat, pas le débat, la confrontation entre particulier et universel, question, dans le domaine du savoir, lié au dialogue précédent, Weber, avec tout son pessimisme, parlait des derniers hommes, et parlait de nous, comme des spécialistes sans esprit et des jouisseurs sans cœur.
Oui, oui. Belle phrase.
Voilà. Mais c'était il y a 100 ans. Et les savoirs, Wikipédia, etc., n'existaient pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un débat maintenant entre le, la transversalité des domaines et la spécialisation? Voilà. Et est-ce que ça ne renvoie pas à votre à toutes vos explications sur l'importance de la confrontation particulière et universelle?
Mais oui, bien sûr, si vous voulez. La contradiction, elle est à l'intérieur même du système de la connaissance, aujourd'hui. Parce que sous le même nom, on loge en fait des choses complètement différentes et même opposées, d'ambitions antagonistes. Donc, ce qui d'ailleurs est au travail à l'intérieur même du monde académique d'aujourd'hui. Je pense que nous sommes dans une toute nouvelle phase de l'organisation des savoirs où le modèle de l'université humboldtienne, l'université moderne, telle que l'université prussienne à Berlin va en fixer le modèle jusqu'à nous, est aujourd'hui sur la sellette. En gros, il faudrait évidemment préciser les choses plus que je ne puis le faire. L'université humboldtienne, c'est l'idée, c'est une adaptation de l'université médiévale, où la philosophie remplace de fait la théologie comme discipline reine parce que capable d'assurer la coordination de l'ensemble des disciplines supposées converger vers un savoir global homogène, au-delà des compartimentations qui sont nécessaires. Mais si vous prenez dans un esprit très différent la classification des sciences d'Auguste Comte et le pouvoir spirituel qu'il imagine pour coiffer le tout, vous avez une construction similaire. Les savoirs vont vers une coordination supérieure dont, justement, le savoir le plus général, pour Auguste Comte, c'est la sociologie, est le couronnement. Mais c'est plus du tout comme ça que ça se passe. Nous sommes en train de vivre une mutation du monde académique à la faveur de la société de la connaissance où le pouvoir est pris par le principe de spécialité et par une mise au premier plan de la dynamique opératoire des savoirs qui n'a plus rien à voir avec une coordination globale, imaginable, réflexive au sens vrai du mot, comme celle que pouvaient imaginer ces gens du XIXe siècle. Et entre nous, je crois que l'avenir des humanités, des disciplines de culture au sens exact du mot, ou de la philosophie, a ses brèves échéances, et d'être en dehors de l'université telle qu'elle est en train de devenir. Ils n'y auront plus leur place. Et pour valablement poursuivre ce travail intellectuel, il faudra se situer dans un autre cadre. C'est un divorce qui est en train de se prononcer, mais ce divorce est aussi un conflit. Et c'est ce, en effet, vous avez raison, ceux qui travaillent au travers de notions comme transversalité, interdisciplinarité, c'est ce qu'il y a de juste dans ce dont parle un auteur comme Edgar Morin, même s'il le fait à mon goût d'une manière un peu trop générale et sans des analyses suffisamment serrées, mais il touche à quelque chose de vrai. Et c'est ça, c'est un autre aspect des contradictions que j'essaye de mettre en lumière.
Est-ce que
cet aspect de l'universel ne ferait pas un peu avec l'absolu? Et est-ce que cette sorte de confusion, enfin, ne pourrait pas nous amener, c'est pas un petit peu la part qui nous amène vers la toute puissance?
Je crois que c'est le contraire. Justement, l'absolu, c'était le monde des vérités éternelles. Les connaissances de la société de la connaissance, elles n'ont aucune propension, aucune direction vers l'absolu. Elles nous en détournent. Elles ne nous mènent pas vers lui.
Quand au milieu du XVIe siècle, il écrit la servitude volontaire et qui se penche sur ce qui fait mystère pour lui, à savoir des peuples qui sont depuis toujours, dit-il, épris de liberté et qui se soumettent volontairement à des tyrans. Il nous donne d'ailleurs des grilles de lecture pour comprendre la situation au temps des régimes totalitaires. Est-ce que lui, il ne voit pas des peuples qui ont toujours été dans la caverne, finalement, pour parler comme Platon, et que l'originalité de notre époque, c'est d'être aussi dans la caverne, et vous-même, vous seriez un peu à la Boétie, mais effectivement, cette méconnaissance va de faire avec une surconnaissance.
Mais votre question est très intéressante parce qu'elle permet de bien cerner ce dont il s'agit. La Boétie, il étudie un fait, il essaye de saisir un fait, le fait de la servitude volontaire. Il est totalement indépendant de ce que les acteurs se racontent sur leur monde. C'est un mode de fonctionnement des communautés humaines. La nouveauté de Marx, il a des antécédents, mais c'est avec lui que ça devient vraiment le centre de l'analyse du fonctionnement collectif. La nouveauté, c'est qu'il lit ça à des discours, à des représentations, à des justifications. L'originalité de la société bourgeoise, la Révolution française l'a illustré, c'est de reposer sur des principes, de se donner une définition, un idéal d'elle-même. Il n'y a rien de tel chez la Boétie qui parle en fait du monde des monarchies, d'ancien régime. Hein. Oui, mais c'est pas dans le mécanisme qu'il décrit, vous remarquerez, c'est pas du tout la légitimation par le droit divin qui intervient. Absolument pas. Il n'y fait même pas allusion. Il essaye de comprendre un mécanisme interne du fonctionnement de ces sociétés, et c'est autre chose dont il s'agit, alors que dans le cas de méconnaissance comme Marx, c'est lié à ces principes affichés de manière très officielle dans la vie collective, et dont il essaye de montrer, à propos du droit, mais pas seulement, à propos de la philosophie, puisque c'est toute son opération, hein, renverser l'idéalisme au profit du matérialisme. Les gens croient que c'est l'idéal, en fait, c'est l'infrastructure économique qui gouverne. Voilà, on est dans un autre système de pensée, oui. C'est à l'intérieur de la pensée que ça se joue.
Mais on cherche à percer un mystère dans les deux cas.
Dans les deux cas, en effet, on cherche à percer un mystère. Mais le mystère ne passe pas du tout dans le même registre. Voilà, c'est ça qui est la différence.